Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
On a tous eu quelque chose, un moment de difficulté, on a tous eu un moment où on a perdu le sens, on a tous eu un échec, etc., etc. Et je pense que les détails changent, mais l'expérience humaine reste la même. Alors en fait, pour être honnête, moi j'avais réfléchi, j'avais émis un plan, j'ai commencé le plan, à exécuter le plan que j'avais, et au bout de 2 ans, j'ai décidé que ça ne me convenait pas. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs dans la famille, donc j'ai entendu beaucoup de dérision, on se moquait un petit peu de moi, de mon projet.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision, et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, c'est Lim Raoudi, une touche à tout, mais qui fait tout avec passion, entrepreneur, artiste et blogueuse. Lim Raoudi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
Bonjour Karima, merci à vous de m'avoir invité aujourd'hui.
Tout le plaisir est pour moi. Alors Lim, pour un peu contextualiser notre échange et avant d'aller plus loin justement et en apprendre plus sur votre parcours, avez-vous réfléchi au préalable à votre carrière ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure, donc à chaque étape, son lot de surprises et d'opportunités?
Alors en fait, pour être honnête, moi j'avais réfléchi, j'avais émis un plan. J'ai commencé le plan, à exécuter le plan que j'avais, et au bout de 2 ans, j'ai décidé que ça ne me convenait pas.
Et c'était quoi le plan?
Alors, de base, moi j'ai fait des études en marketing.
D'accord.
Alors, pour être très honnête, je suis quelqu'un qui est un pur produit de l'orientation quand elle ne fonctionne pas. Donc à la base, on m'avait dit, il faut faire sciences maths, il faut être ingénieur, voilà.
Donc, la voie de l'excellence, en quelque
exactement,
sorte.
Après, bon, exactement. Donc, j'avais rencontré un orientateur. Il m'avait posé donc l'orientation, c'était combien tu as fait maths, combien tu as physique. Bon, c'est bon, tu peux passer sciences maths. Donc, vraiment, il n'y avait aucune question sur qu'est-ce que tu aimes faire, ou etc. Donc, je passe sciences maths. Et l'année de la terminale, je décide que ce n'est absolument pas fait pour moi. Donc, je fais la deuxième chose la plus acceptable aux yeux des parents, qui est le business. Et je me dis, bon, ben, au moins là, je vais faire ça, je vais exceller là-dedans et voilà, et j'aurai la reconnaissance sociale, entre guillemets, si vous voulez. Donc je fais des études de business, je fais mon master en marketing, j'intègre une multinationale tech.
D'accord.
Donc franchement, jusque-là, ça se passait très très bien. Mais au bout de la deuxième année, j'avais besoin de sens.
D'accord.
Je commençais à ressentir vraiment un besoin de sens qui manquait dans ce que je faisais. Et pour ne rien vous cacher, c'était comme si vous regardiez un film et que à la 10e minute ou la 15e minute du film, c'est-à-dire vous êtes encore au début, vous devinez la fin. Et la fin ne me convenait pas du tout.
Il n'y avait pas c'était pas palpitant en quelque sorte, pas stimulant.
Alors voilà. Et non, c'était très intéressant dans l'absolu, c'était très intéressant. Mais je me disais, mais est-ce vraiment ce que tu as envie de faire de ta vie? Est-ce que c'est vraiment la meilleure utilisation de tes talents, de ce que tu sais faire, etc. Et donc, un jour, je me rappelle vraiment, j'étais assise et je regarde autour de moi et je me sens étrangère. Et je me dis, bon, bah, il faut prendre une décision. Donc, la vie a fait qu'après quelques mois, j'ai dû quitter.
D'accord.
Et donc, là va commencer toute une année où je ne fais rien qu'explorer les différentes options qui s'ouvrent à moi. Et je fais à côté un cours de coaching parce que je me disais, j'ai besoin de comprendre comment j'en suis arrivée là et comment je fais pour que ça n'arrive plus jamais. Donc, de base, j'ai jamais voulu être ni coach, ni accompagner des gens, ni faire quoi que ce soit.
D'accord.
C'était vraiment pour moi, pour comprendre. Mais voilà, la vie est extrêmement bien faite parce que plus je découvrais des choses, plus je me disais, mais comment ça se fait qu'on ne nous apprend pas ça à l'école?
Ben oui, c'est dommage.
Comment ça se fait que je ne sais pas interpréter mes propres émotions? Comment ça se fait que je ne comprends pas ce que je veux? Comment ça se fait que j'ai téléchargé la vision qu'on avait pour moi, je l'ai mise à exécution, ce qui est génial pour moi, ce qui était bien, c'est que je savais que si je mettais une vision, j'étais capable de l'achever. Mais comment savoir si c'est la mienne ou si c'est quelqu'un d'autre?
C'est vrai, parce que des fois, et vous l'avez dit justement il y a quelques instants, Rim, l'impact aussi des parents et de l'entourage des fois dans l'orientation de leurs enfants. Voilà, ça va d'une bonne intention.
Exactement.
C'est pas méchant, c'est pas pour ne pas nous laisser être épanouis ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment voilà le schéma qu'on a connu. Les maths, c'est bien, littérature, pas tant que ça. Voilà, on a grandi comme ça. Après, maintenant, les choses ont changé, les visions également. Mais c'est important aussi.
Mais franchement, je rencontre encore des parents qui sont certains que ça ne sert à rien de faire, par exemple, des études de littérature.
Mm.
Alors qu'au contraire, ça peut être extrêmement épanouissant si c'est la vocation de la personne.
Bien sûr, parce que quand on aime quelque chose, on le fait avec le cœur. Et même quand on travaille, par exemple, on fait un métier plutôt, on pratique ou on exerce un métier qu'on aime, qui nous passionne, ben, non seulement on est épanoui, mais aussi on est productif. Donc c'est gagnant-gagnant.
Oui. Exactement. Donc pour répondre un peu à votre question, donc à partir de ce moment-là, je n'ai plus de vision claire. Je me suis dit, je vais explorer. Et au fur et à mesure, et en fait... Ce qui est magnifique, c'est que quand vous ouvrez le champ du possible, ben, le champ du possible s'ouvre.
C'est tout à fait vrai. Mmh. C'est
donc,
vrai.
Je commence. À un moment, je me sentais donc pendant cette année où je vous disais, j'ai pris vraiment une année sabbatique.
Mmh.
J'ai rejoint une association parce que je me disais, je ne sais pas à quoi je sers, je ne sais pas ce que je veux. Ben, au moins aider d'autres personnes en attendant.
Mmh.
Donc c'était vraiment ça. Viens, on va faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et arrêter d'être centré sur moi-même. Donc, je rentre, première réunion, une personne dans le groupe fait une session de méditation et je rentre dans une sorte de transe. Je ne peux pas l'expliquer, c'est un truc qui était tellement puissant pour moi parce que j'étais dans de l'anxiété permanente et c'était la première fois où je me sentais calme.
Mmh.
Et donc, je pars vers cette personne à la fin et je lui dis, je veux apprendre ça.
C'est ça que je veux.
Je veux ça.
Je veux comme ça.
Comme les... Donc, je commence à faire de la méditation. Mmh. Je pars long story short, donc je pars en Thaïlande. Je fais mon entraînement avec des moines. J'apprends l'importance de la discipline, comment eux, ils abordent cette question-là de discipline, de comment leur philosophie de vie, en fait. Et qu'il n'y a pas de liberté sans discipline. C'est paradoxal, mais il n'y a pas de liberté sans discipline, par exemple. Et donc, je reviens avec tout ça, et je me dis, mais très bien. Donc, moi, je ne veux pas revenir au salariat.
Ça, c'est sûr.
Je ne veux pas. Exactement, pour moi, en tout cas, ça
bien
ne
sûr,
marchait pas.
Bien sûr.
Je continue à dire que ce n'est pas fait pour tout le monde. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui vont vraiment s'extasier dans le salariat et qui vont trouver leur compte parce que c'est fait pour eux. Et il y a d'autres personnes qui vont pas. Moi j'étouffe dans le cadre.
Mm-hmm.
Quand le cadre est trop rigide, j'étouffe. J'ai besoin d'explorer. Et donc je me dis comment je vais faire ça. Et donc petit à petit, je découvre l'art thérapie, je découvre d'autres disciplines et je commence à me spécialiser petit à petit parce que je commence ma propre entreprise pensant très innocemment que mes études de business vont m'aider et en fait je me rends compte que y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas en plus.
Bien sûr, et qu'on apprend peut-être sur le tas ou avec l'expérience. Et comment s'est fait justement ce déclic pour vous, Rim Raoudi, ce passage à l'entrepreneuriat? Comment vous l'avez vécu? Avec la création, bien sûr, de votre entreprise, les difficultés que vous avez peut-être rencontrées, ce que vous avez fait en premier lieu?
Alors, ce qui est magnifique, je vous le raconte vraiment en toute honnêteté, moi, ma première société, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc, c'était la fin de la première année sabbatique. J'ai besoin d'argent. Je crée la société en pensant qu'il suffit de créer la société pour commencer à regagner d'argent, etc. Et pas du tout. Eh bien, il faut avoir une vision.
Bien sûr. Une préparation en amont aussi, peut-être.
Exactement. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, ça fait quand même il y a 5 ans. Donc je passe les 3 premiers mois à souffrir, à réfléchir. J'avais peur d'envoyer un devis, j'avais peur d'aller pitcher mon produit, mes formations, etc. J'avais peur de parler aux gens, j'avais peur d'envoyer une facture. Et je me dis, mais c'est pas possible, est-ce que c'est que moi? Et plus je parle autour de moi, et plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui avaient la même chose. beaucoup de gens qui n'arrivent pas à mettre le bon prix sur leur service. Et donc, ils passent vraiment beaucoup de temps. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des mentors qui étaient extraordinaires. Mais aussi, à un moment, je me suis dit, bon, et si ça, ça devenait mon business ? Mmh. Accompagner les gens dans tout ce qu'on ne vous dit pas que vous allez avoir.
Voilà, c'est, donc, finalement, c'est ça, c'est une idée venue en quelque sorte d'un besoin. Ça rejoint l'idée de beaucoup d'entrepreneurs, c'est créer justement en partant d'un besoin.
C'est en partant d'un besoin et en partant d'un vécu.
Mmh, les deux,
et
c'est
vrai. En partant de par exemple, aujourd'hui, j'accompagne les gens pour le switch de carrière et pour l'entrepreneuriat, pour commencer leur entreprise. Mmh. Et je sais qu'il y a beaucoup, la plupart des gens savent ce qu'ils ont à faire, mais ils ne vont pas le faire. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des a priori, parce qu'il faut soigner la relation au temps, à l'argent, au rejet, etc., etc. Quand, moi, je viens d'une famille de fonctionnaires.
Donc l'entrepreneuriat, c'est nouveau en quelque sorte. Vous n'avez pas baigné
exactement.
Dedans.
Exactement. Donc je n'ai pas baigné dans l'entrepreneuriat. Et je pense que quelque part, c'était une chance. Parce que ça m'a permis de voir tout le chemin qu'il faut traverser. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, ça va être, ça, c'est un beau projet. Mmh. Et donc, j'accompagne aujourd'hui les gens à faire ça, à partir de mon vécu et à partir, bien sûr, de ce que j'ai appris par la suite dans mes formations. Mais vraiment, c'est venu comme ça. Après, plus on continue à découvrir dans la vie, et plus on rencontre d'autres opportunités. Donc, pour être honnête avec vous, je ne sais pas si je vais faire ça toute ma vie. En tout cas, pour le moment, ça a beaucoup de sens pour moi parce que c'est beau de voir des gens qui,
bien sûr.
Au début, avaient peur, au début, pensaient pas être capables. Et 6 mois plus tard, ils font des choses extraordinaires. Et je me dis, c'est magnifique.
Vous voyez l'impact, en quelque sorte, de ce que vous faites.
Exactement. Mmh. Et puis surtout, je sens que je contribue à améliorer le quotidien de quelqu'un d'autre.
Et ça, c'est important.
Voilà. Et ça, pour moi, c'est très important, que ça ait du sens pour l'autre aussi.
Et vous avez sûrement eu, Rim Raoudi, dans tout ce cheminement, des moments de doute. Et on sait que l'entrepreneuriat ou les entrepreneurs, de façon générale, ont ces moments de doute où ils se disent peut-être pourquoi j'aurais dû rester dans le salariat si j'avais une stabilité financière. Voilà, ou des moments de doute par rapport au choix de leur projet. Est-ce que vous avez connu ça et comment vous l'avez géré ? Question peut-être aussi de faire partager votre expérience avec les personnes qui nous écoutent actuellement et qui passent peut-être par ces moments de doute.
Bien sûr. Écoutez, je vais être très honnête avec vous. Moi, quand j'ai fermé la première boîte, je sais qu'on dit souvent que l'échec, c'est juste une étape, mais je l'ai très, très mal vécu. Je me rappelle, en fait, c'est assez paradoxal, mais quand je commençais mon entreprise, comme je vous l'ai dit, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs dans la famille, donc j'entendais beaucoup de dérision, on se moquait un petit peu de moi, de mon projet. Oh, mais qu'est-ce que tu comprends à l'entrepreneuriat ? Et en fait, quand je démarrais, j'avais fermé mes oreilles, je n'écoutais plus rien de tout ça. Mmh. Donc je traçais. Quand il a fallu fermer la boîte, toutes ces petites phrases, moi je les appelle les petites phrases assassines, elles sont revenues.
Et c'est vrai, malheureusement.
Elles reviennent. Mmh. On m'a dit ça. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que je fais n'importe quoi. Peut-être que j'ai raté la chance de ma vie en quittant l'entreprise. De quoi avais-je besoin ? Enfin, j'avais un bon salaire. Vous savez un peu, pourquoi tu as fait ça ? Et puis, vraiment, moi, ce qui m'a permis de revenir, c'était de me dire, pourquoi tu as fait ça ? Mmh. Et puis, j'ai un vision board dans ma chambre, toujours. C'est une sorte de tableau où j'avais mis tout ce que je voulais réaliser, tout ce qui avait du sens pour moi. Et donc, un jour, je vous le dis en toute honnêteté, j'étais assise et j'ai commencé à pleurer devant le vision board. Mmh. En me disant, voilà pourquoi tu le fais. Et c'est un moment difficile à passer.
C'est vrai.
C'est un moment compliqué. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans ta tête. Moi, je suis croyante à 100% que si vous avez un rêve, si vous avez une vision, eh bien, cette vision n'existe que parce que vous êtes capable de l'achever. Que parce que vous êtes capable d'y arriver. Donc, c'est OK d'avoir des moments de doute, c'est OK d'avoir des moments de... Mais il faut se rappeler de son pourquoi.
Exactement. Pourquoi on a commencé tel ou tel projet ou telle expérience de façon générale? C'est comme ça qu'on arrive à dépasser ces moments de doute. Voilà, on se rappelle,
Absolument.
comme vous l'avez si bien dit, du pourquoi. Comment? Pourquoi? Et
Voilà.
qu'est-ce que ça voulait dire pour moi à ce moment-là? Et qu'est-ce que je ressens à ce moment actuel? Et voilà, tout plein de il faut aller de l'intérieur en quelque sorte. Voilà, c'est vraiment.
Exactement, c'était la question du sens. Quel sens est-ce que ça a pour moi? Et puis, oui, toutes ces personnes-là pensent tout ce qu'elles pensent, et elles ont le droit de penser ce qu'elles pensent. Sauf que moi, mon expérience, j'ai décidé de mener une vie vraie, entre guillemets, c'est-à-dire alignée avec ce que je crois profondément.
Authentique.
Ça m'a apporté, une paix intérieure que je n'avais pas avant. Et bien, dans ce cas-là, on continue. Et c'est OK s'il y a des moments difficiles, et c'est OK si ça ne réussit pas à chaque fois. C'est assez marrant, mais un jour, je me rappelle, j'étais assise et je me suis dit, je veux un signe. Est-ce que je dois arrêter? Le lendemain, j'ai une amie qui m'appelle pour me dire, voilà, il y a un projet qui commence, est-ce que tu as envie de participer dedans, etc., etc. Et c'était le projet For Sans.
D'accord.
Donc, et là, je me suis dit, c'est pas possible. Si ça vient comme ça, c'est qu'il y avait une raison.
Bien sûr.
C'est qu'il y avait quelque chose. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, on se reprend en main et on y va. Quelque chose qui aide beaucoup aussi, quand on peut, moi, personnellement, qui m'aide beaucoup quand je passe par ces moments-là, c'est le sport et l'écriture. Le sport, parce que c'est très difficile de voir votre évolution mentale, mais c'est assez facile de voir l'évolution physique. C'est un peu plus rapide.
C'est vrai.
Donc, quand vous n'arrivez pas à courir 5 minutes et que le lendemain, vous arrivez et que vous faites 10 minutes et 30 minutes et 45, on se dit, ah oui, donc il y a une évolution. Et je suis sûre que dans ma tête, ça se passe aussi comme ça, mais je ne le vois pas parce que c'est à l'intérieur et que donc, ça va prendre un peu plus de temps avant que je le voie.
Mais je vais finir par le voir, c'est le plus important.
Exactement. Et l'écriture, parce que ça permet de voir son évolution. Et que parfois, on va voir que j'ai écrit un problème ou quelque chose et que je disais exactement la même chose il y a 3 mois ou exactement la même chose il y a 6 mois.
C'est vrai.
Et dans ce cas-là, il est temps de prendre une décision. Je ne vais pas commencer à me plaindre de la même chose tout le temps. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut prendre une décision, il faut trancher.
C'est assez thérapeutique.
Voilà. Absolument.
Erim Raoudi, donc là, c'est la casquette d'entrepreneur en quelque sorte. Qu'en est-il de celle de blogueuse et artiste?
Alors, artiste, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. J'ai mis
Le
beaucoup de temps à
syndrome de l'imposteur?
Absolument.
D'accord.
Parce que d'abord, le jour où j'ai écrit ce artiste, j'avais besoin de poser quelque chose. J'avais besoin de me dire à moi-même que j'accepte. J'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours fait des activités artistiques, mais je me disais, non, c'est pas suffisamment bien, c'est pas suffisamment à la hauteur. Et puis, on a ce regard de la société. Je viens d'une famille où il faut être intellectuel, il faut lire, il faut faire, voilà. Mais artiste, c'est qu'un hobby. Faut pas y croire beaucoup.
Faut pas y donner trop d'importance.
Voilà, faut pas
accorder.
Y donner beaucoup d'importance. Et donc, là, en 2017, on faisait une visualisation collective et je me vois sur une scène. Je ne sais pas comment ça se passe, je me vois sur une scène. Fast forward 2021, je rentre dans une troupe de théâtre. À la base, c'était censé être un cours. Ça se transforme en une troupe. On fait 2 tournées au Maroc. Et je me rends compte pour la première fois que, j'avais déjà vu ça dans la visualisation 5 ans auparavant. Donc, c'était extrêmement puissant. J'ai commencé à pleurer à la fin de la pièce.
Ah, j'imagine, c'est assez impressionnant.
C'est extrêmement impressionnant. Et puis surtout, quand on voit le regard de vos proches, surtout personnellement, c'est le regard de ma mère quand elle m'a vue sur scène. Je crois qu'elle a compris des choses. Parce qu'on me disait toujours, tu es trop sensible. Et là, elle commence à me dire, mais en fait, tu es juste différente.
Et c'est bien.
Et c'est bien, voilà. C'était pas sensible dans le sens, tu es trop sensible. Mais c'était vraiment, non, en fait, ça te permet d'exprimer des choses. Mmh. J'ai toujours écrit beaucoup de poésie, j'ai toujours chanté dans des chorales, etc. Mais je ne m'autorisais pas à accepter ça. Et en fait, une fois qu'on accepte ce qu'on est, ben, y a des choses qui s'apaisent.
C'est vrai. Et donc, on se donne beaucoup plus.
Voilà. Donc aujourd'hui, je continue l'aventure et je me dis, voilà, le théâtre, la chanson, ça me parle. Je le fais et puis voilà, et je continue à écrire mes poèmes et en me disant, voilà, je laisse faire la vie.
Mmh. Il n'y a pas mieux.
On laisse faire la vie, mmh. Exactement.
Et blogueuse peut-être, dernière petite
alors,
casquette pour la route.
Alors, la blogueuse, c'était vraiment le point de changement.
D'accord.
Blogueuse, j'ai toujours blogué un petit peu. Enfin, à l'époque, il y avait Skyrock. Quand j'étais partie faire mes études à l'étranger, j'avais commencé un petit blog pour expliquer un peu la vie étudiantine à l'étranger. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui me parlaient. Je pense que blogueuse, c'était vraiment juste une façon de partager. Mm-hmm. Mais le point qui a été vraiment le plus important, c'était le 17 mars 2017.
D'accord.
Où je me rappelle très, très bien. C'est le jour où j'ai commencé un blog qui s'appelait Excellent Life, mmh. qui n'existe plus aujourd'hui. Mais pour moi, c'était le point où j'allais changer ma vie. C'est-à-dire que c'était le jour où je me suis rendu compte que si je ne changeais pas, bah, rien ne changerait. Mmh. Parce que je passais beaucoup de temps à me plaindre, je n'aime pas mon boulot, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, mais je ne faisais rien.
Mmh. Pour changer la situation.
Je ne faisais rien pour changer la situation. Et en fait, il ne s'est rien passé d'extraordinaire ce jour-là. Je ne sais pas comment ça se fait. Il y a eu une prise de conscience soudaine. Mmh. Rien ne va changer si tu ne changes pas. Pardon. Et donc, du coup, je m'assois, j'ouvre mon PC et je commence le blog. Et donc, j'explique. Et c'était vraiment le premier article, c'était vraiment une sorte de coming out, si vous voulez, où je disais à tout le monde, ben voilà, je passe ma vie à me plaindre de tout, je ne fais rien pour changer, je mérite la vie que j'ai.
Ah ben finalement, c'est tellement vrai ce que vous dites, je le ressens vraiment beaucoup, parce que c'est vrai que tout changement commence par nous, et on a tendance à accrocher en quelque sorte notre désespoir ou notre frustration sur des éléments externes, alors que finalement, voilà, ça tient à nous.
Exactement. Mmh. Et donc ce blog-là, c'était vraiment pour documenter l'évolution. Et à chaque fois que je regardais un TED Talk ou que je lisais un livre, je mettais les apprentissages que je trouvais dedans. Et d'accord. Je les écrivais. Mmh. Et je disais, voilà, aujourd'hui j'ai découvert ça, aujourd'hui j'ai découvert ça. Voilà comment je vais appliquer ça. Et petit à petit, donc ça j'ai switché vers Medium, le site web de blogueur. Donc j'ai commencé aussi à écrire un peu dessus. Et puis voilà, donc, et ça continue. Pour moi, c'est vraiment un cheminement de se dire, je note ce qui se passe et c'est une sorte de partage. Parce que, en fait, la vérité, pourquoi moi je partage mes histoires, ça ne me dérange absolument pas, parce que pour moi, c'est une expérience humaine. Mmh. Et je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, qui vont résonner avec des parties de mon histoire. Peut-être pas toute l'histoire, peut-être pas avec ces détails, mais il y aura des phases. On a tous eu quelque chose, un moment de difficulté, on a tous eu un moment où on a perdu le sens, on a tous eu un échec, etc., etc. Et je pense que les détails changent, mais l'expérience humaine reste la même.
Et ben c'est sur cette belle note, Lim Laoudi, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui et d'avoir raconté votre histoire. C'était vraiment un plaisir de vous écouter aujourd'hui.
Merci à vous, merci beaucoup.
Et beaucoup de courage et de belles choses pour la suite, Inch'Allah.
Merci beaucoup et passez une très bonne journée. Au revoir.
Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.